Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous allons ouvrir le livre le plus traduit au monde, et donc ça sera le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Nous aurons deux autres textes dans le Nouveau Testament. Le premier dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4. Et donc cela se déroule juste après le baptême de Jésus. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Puis, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Et un troisième texte, Jean chapitre 15, les versets 1 à 11. C'est Jésus qui parle. « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis l'on ramasse les sarments et on les jette au feu. » Et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu.
Dieu est saint. Il est la perfection morale en soi. Il est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il brille dans la ténèbre. Et les ténèbres ne peuvent jamais et ne pourront jamais le vaincre. L'année dernière, à ce même jour, mon épouse Rebecca et moi étions au Cameroun, attendant notre premier enfant et cherchant à savoir comment nous pourrions construire une nouvelle vie en Afrique francophone pour contribuer à l'Église là-bas et au travail continu des traductions de la Bible. Nous avons été tantôt encouragés, tantôt surpris, tantôt intimidés par des aperçus de rupture et des défis auxquels nous pouvions nous attendre si le Seigneur nous amenait en Afrique. Dans le complexe où nous logions, dans la capitale, nous avons rencontré de nombreuses familles de missionnaires, des collègues de notre organisation qui travaillent depuis des années à la traduction de la Bible. Nous avons entendu parler d'une famille, des Américains habitant dans la maison voisine de la nôtre, qui habitait et travaillait auparavant dans un village rural, mais par crainte de l'immoralité qu'ils avaient constatée chez les jeunes de ce village et de la façon dont leur fille préadolescente pourrait être touchée par cette immoralité, les parents ont décidé de déménager leur famille dans la capitale. Là, dans le confort et la sécurité d'une communauté fermée, un ensemble de familles missionnaires, chrétiennes, essentiellement américaines, avec une école chrétienne privée où ils pouvaient envoyer leurs enfants, les parents étaient rassurés de pouvoir contenir le mal et le mieux protéger leurs enfants. Une partie de moi pense, quelle honte, quel gâchis, pourquoi se retirer par peur alors qu'on aurait pu accomplir tellement plus en vivant parmi les gens avec lesquels on travaille. Mais une autre partie de moi comprend. Le père en moi regarde ma fille de 9 mois et j'hésite. J'hésite à l'idée de déménager ma famille dans un village rural isolé en Afrique. J'hésite quand je pense aux épreuves et aux tentations auxquelles ma fille pourrait être confrontée là-bas en tant qu'adolescente. J'hésite quand je pense à la façon dont le virus du sida fait rage en Afrique, conséquence grave de l'immoralité sexuelle ou simplement conséquence de la réutilisation des seringues et d'une stérilisation insuffisante du matériel médical. À quelle souffrance mes décisions pourraient-elles involontairement conduire ma famille? La plupart d'entre vous ici présents n'envisagent probablement pas de déménager leur famille en Afrique, mais vous êtes confrontés à vos propres batailles ici en Suisse. J'imagine qu'il vous arrive aussi d'hésiter face à ce monde sombre. Tout le monde ici a été touché par les ténèbres, par le péché d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes mûr dans la foi, vous savez que céder à la tentation, céder au péché, entraîne de graves conséquences. Le péché tord, déforme et gâche la bonté des créatures de Dieu. Il peut plier vos bonnes intentions et des fins malveillantes. C'est suffisant pour que le chrétien craigne pour lui-même et que le parent chrétien craigne pour son enfant. Quelle vérité peut calmer ces craintes? Quelle vérité Dieu nous a-t-il donnée? Et où pouvons-nous nous tourner dans sa parole pour répondre à ses insécurités. Les psaumes offrent de nombreuses méditations pour calmer l'âme troublée. Regardons aujourd'hui le psaume 1 pour trouver une réponse. J'ai divisé ce sermon en trois points. Reflétons trois sections du psaume 1. Le premier point couvre les versets 1 et 2 et dépeint l'homme incorruptible, uni dans les délices de la loi de l'Éternel. Le deuxième point couvre le verset 3 et 4 et met en contraste la persévérance de l'homme incorruptible avec les jours éphémères des méchants. Le troisième point couvre les versets 5 et 6 et démontre que le Seigneur assure la justice et assure la purité de son peuple. Avant de commencer à écrire ce sermon, j'ai dit à Roland, à l'un des pasteurs ici présents, que je prêcherai sur la suprématie du Christ dans les psaumes. Et je lui ai dit que je commencerai par le psaume 1. Roland a dit à mon épouse, je vois comment le psaume 2 met en évidence la suprématie du Christ, mais pas le psaume 1. C'est donc ma tâche aujourd'hui de vous montrer la suprématie du Christ ici, dans le psaume 1. Je vous propose que bien que le psaume 1 nous donne un exemple de purité par la jouissance de la loi de Dieu, bien qu'il nous donne un exemple vers lequel tendre et que nous devons suivre, Jésus seul est l'accomplissement parfait de cet idéal. Je vous propose que Jésus réalise parfaitement l'idéal de cet homme singulier, non corrompu par le péché et uni dans un plaisir incessant à la loi de Dieu. Je vous encourage à répondre en recherchant les Écritures et à vous y complaire en cherchant joyeusement le Christ, quel que soit le livre ou le passage vers lequel vous vous tournez, en trouvant le fil conducteur qui vous guidera de ce passage vers Jésus à la et la rédemption de son peuple. Alors, regarde avec moi les versets 1 et 2 des psaumes 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Ici, au verset 1, nous voyons un homme qui est satisfait de ne pas suivre la voie du monde, qui est heureux de ne pas se conformer au modèle de péché de ce monde. Il n'est pas maussade ou réticent. Il ne s'abstient pas à moitié du péché. Non, il est heureux de ne pas marcher aux côtés de ceux qui font le mal. Il est représenté ici comme un homme unique, séparé de la foule, qui continue à pécher. Il suit un chemin différent. Au verset 2, nous voyons la source de son bonheur. Il est heureux de s'abstenir de pécher parce qu'il ne cesse de se délecter de la loi de Dieu. Jour et nuit, il médite continuellement sur la loi de Dieu. Le mot hébreu traduit ici par « méditer » signifie littéralement « murmurer » ou « chuchoter ». Il se répète sans cesse la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans la bonté, la pureté et la sainteté de la loi. Qui est cet homme? Qui est cet homme merveilleux qui n'est pas corrompu par le péché du monde, qui n'est pas touché par les ténèbres, mais qui reste pur et sans tache? Qui est cette personne incroyable qui ne cesse de prendre plaisir à la loi de Dieu? Je ne suis pas cet homme et personne dans cette salle n'est pas cet homme. Pas encore. Mais par la grâce de Dieu, le chrétien désire être cet homme. Par la grâce de Dieu, le chrétien deviendra cet homme. Le chrétien ne deviendra pas cet homme par la capacité de sa volonté, par sa force ou par ses propres efforts. Non, c'est impossible. Tout le monde travaille à devenir pur de cœur, à résister au mal et à faire le bien. Mais tout le monde a échoué et échouera. Tout le monde sauf un homme. Qui est cet homme? C'est Jésus-Christ. Seul le Christ n'a pas été corrompu par le péché, n'a pas été touché par la ténèbre. Lui seul a trouvé un plaisir infini dans la loi de l'Éternel. Je vous invite à lire le récit de l'obéissance du Christ dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Comment le Christ a-t-il pu rester parfaitement obéissant au Père? Comment a-t-il résisté à la tentation au malin là où le reste de l'humanité a cédé? Il a pu le faire parce que dans sa personne, il est également Dieu et homme. Le Christ était pleinement homme et pleinement Dieu. Qui plus est, son humanité était parfaitement soumise à sa divinité. Il avait un contrôle parfait, une matrice parfaite de lui-même. Même lorsqu'il était le plus fiable, les mauvais désirs n'avaient aucun pouvoir sur lui. Au contraire, il se complaisait dans la loi de son Père. En tant que parole de Dieu incarné, Jésus était en parfaite unité. Il existe en parfaite harmonie avec le commandement de son Père. En accomplissant et en réalisant toute la loi et les prophètes, Jésus n'a jamais cessé de répéter les paroles de son Père. Que cela te réconforte, chrétien. Que cela te rassure quand tu chancelles, quand tu trébuches, quand tu tombes. Même si tu n'es pas ce que tu devrais être, ne désespère pas. Prends courage, car le Christ a tout accompli. Ce n'est pas par toi-même, mais par le Christ en toi, que tu persévéreras. Et une fois que tu seras pleinement uni à lui, que tu arriveras dans la lumière de sa présence, sans plus être troublé par le péché, la souffrance et les ténèbres. Détournez-vous donc de votre péché et attachez-vous au Christ incorruptible, votre seul espoir dans la vie et dans la mort. Regardez avec moi les versets 3 et 4 du psaume 1. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit et son en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils ont comme la paille que le vent dissipe. Ici, au verset 3, nous voyons l'homme incorruptible des versets 1 et 2, comparé à un arbre planté fermement près de l'eau. Il est mûr et prospère. Il porte du fruit année après année. Il ne se contente pas de durer et de persévérer, mais il prospère. Cet arbre est une image de la manière dont l'homme incorruptible réussit dans toutes ses entreprises. Quelle que soit la tâche à laquelle il pense, quel que soit le travail auquel il s'attelle, il réussit au profit des autres. Quelle belle image du Christ réussissant dans toutes ses œuvres. Jésus a réussi dans toutes les bonnes œuvres que Dieu le Père a voulu pour lui. Il a non seulement réussi en vivant dans l'obéissance parfaite à son Père, mais il a même réussi dans la mort expiatoire qu'il a volontairement choisie. Même en mourant, il a réussi et a vaincu la tombe. Sa réussite en toute chose est la base, le fondement de notre salut. Jésus a persévéré et a réussi pour votre bien et le mien. Reposons-nous en lui. Au verset 4, la fécondité durable de l'homme incorruptible est mise en contraste avec l'échec des méchants. Nous voyons les méchants comparés à de la paille légère, rapidement emportée par le vent. Cette paille est une image de la rapidité avec laquelle les méchants échoueront et disparaîtront. Elle nous montre qu'ils ne persisteront pas à faire le bien ou à nourrir les autres comme le fait le fruit de l'homme incorruptible. Quelle est la signification de ces deux images pour nous aujourd'hui? Quels sont les avantages de cette vérité pour le chrétien? Comment nous aide-t-elle à suivre Jésus? Regardez avec moi Jean 15, versets 4 à 6, où Jésus développe davantage ces images pour nous aider à comprendre leur signification dans notre sanctification et notre rédemption. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous le serment. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, et il sèche, puis l'on ramasse les serments. On les jette au feu et ils brûlent. Ici, Jésus ajoute des détails à l'image de l'arbre fruitier, du psaume 1. Il ajoute des détails qui nous aident à comprendre son rôle et le nôtre dans l'œuvre permanente de notre sanctification. Jésus décrit son rôle en se comparant à un cep et décrire notre rôle en nous comparant au sermon du cep. Il explique cette relation en disant au verset 4 et 5, le sermon ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure dans le sein, dans le sein. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. En dehors du Christ, nous ne pouvons rien faire. En dehors du Christ, nous ne pouvons pas espérer porter du fruit comme l'homme incorruptible du psaume 1. Alors, mes amis, restez dans l'amour du Christ. Faites-le en grandissant dans l'obéissance amoureuse à ses commandements. Ce n'est qu'alors que nous pourrons prendre plaisir à la loi de l'Éternel. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons grandir en pureté et devenir comme l'homme incorruptible du psaume 1. Regardez avec moi le verset 5 et 6 du psaume 1. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. La justice finira par prévaloir, aussi bien aujourd'hui dans l'Église qu'au dernier jour, lorsque le Seigneur mettra fin à tous les maux, à tous les maux. Cette vérité rassure ceux qui sont en Christ, qui ne continuent pas dans leur péché, mais qui se repentent et qui se tournent toujours vers Jésus. Mais pour ceux qui persistent dans leur péché, qui le recherchent et qui refusent de s'en détourner, qui refusent de se repentir, que ceci soit un appel à la repentance. Car si vous ne vous repentez pas, vous périrez en dehors du Christ. Le Père vous coupera du vrai cep et vous vous dessécherez et mourrez dans votre péché. Dieu purgera les impénitents de son peuple. Cette vérité est répétée au verset 6. Nous voyons que l'Éternel connaît la voie des justes, mais que la voie des méchants les conduit à la perdition. Quelle sécurité, quelle paix cela donne à ceux qui sont trouvés justifiés en Christ. Ils veillent, ils les gardent sur leur chemin. Mais pour ceux qui ne grandissent pas dans l'obéissance au Christ, pour ceux qui recherchent plutôt le péché, qui désirent leur péché et qui sont maîtrisés par un désir autre que celui du Christ, la parole de Dieu vous avertit et vous appelle à vous repentir. Il y a encore de l'espoir. Si tu te détournes de ton péché et que tu te tournes vers Jésus, si tu le regardes et t'accroches à lui comme à ton seul espoir dans la vie et la mort, alors il te sauvera. Et ce n'est pas qu'à ce moment-là, dans la soumission et l'obéissance à lui, que tu pourras te reposer en toute sécurité. En conclusion, je vous encourage à sonder les Écritures chaque jour, à les sonder pour y chercher le Christ. Et lorsque vous n'y parvenez pas, ne vous découragez pas, mais prenez plutôt courage et laissez le retour continuel à la parole de Dieu vous réconforter. Ne cessez jamais de revenir à la parole, de revenir au Christ. Lui seul est en parfaite adéquation avec la loi de l'Éternel. Lui seul est en parfaite obéissance à la loi de l'Éternel. Lorsque vous craignez que le monde, le diable ou le péché intérieur ne vous corrompe, ne vous déforme ou ne vous compromette, prenez plaisir à Christ en prenant plaisir à l'Écriture. Prenez plaisir à la parole incarnée en prenant plaisir à la parole écrite. Lorsque vous craignez pour vos enfants, lorsque vous craignez ce que les ténèbres de ce monde pourraient leur faire, guidez-les vers le Christ. Montrez-leur comment trouver Jésus dans chaque page de l'Écriture. Montrez-leur non seulement à voir le Christ dans l'Évangile selon les apôtres et les épîtres des apôtres, mais aussi à aller plus loin et à chercher le Christ avec eux dans la loi et les prophètes. Poussez-vous à lire l'Ancien Testament comme les faisaient les apôtres, en voyant comment chaque psaume chante le Christ, comment chaque décret de la loi renvoie à l'obéissance parfaite du Christ, et comment chaque généalogie anticipe la semence de la femme, le rédempteur à venir.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.